Beaucoup. J'ai oublié tout à l'heure de dire, je vantais bien sûr Fribourg et son équipe. J'ai oublié de dire qu'à l'époque, quand j'habitais ici, Bienne était une grande équipe de hockey sur glace et que j'ai eu l'occasion de voir. Alors je voulais quand même pas manquer de relever cet élément-là. Voilà. Comme vient de le dire Jean-Paul, durant cette année, enfin je précise encore, durant cette année, j'ai eu l'occasion d'être à 7 reprises parmi vous. Je ne compte pas le premier dimanche de l'année où j'étais aussi là, en tout ça fait 8. Mais en ce qui concerne les 7 dimanches où je serai parmi vous, qui ne sont pas 7 dimanches de suite, mais étalés sur l'année 2026, j'ai pensé en effet qu'il était préférable, plutôt que d'apporter chaque fois des thèmes différents, d'avoir quelque chose d'un peu suivi. Et alors il y aura des thèmes différents, bien sûr, mais comme vient de le dire Jean-Paul, ils sont liés entre eux par le fait qu'ils sont tous tirés de l'Épître aux Hébreux, et en ce point commun, c'est que l'Épître aux Hébreux les qualifie de meilleurs. Alors, comme c'était rappelé, j'ai déjà eu l'occasion de partager l'un de ces messages sur cette question du meilleur. Et pour rappel, je disais que dans l'Épître aux Hébreux, on trouve 13 fois en grec l'adjectif kraiton, qui est traduit, en tout cas dans les traductions que je connais, par soit plus excellent, supérieur, ou le plus souvent meilleur. Et justement, on a eu l'occasion de s'arrêter sur cette question d'une meilleure espérance. Mais pour les messages à venir, on va encore parler d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses, ainsi que de meilleurs sacrifices, de meilleures possessions, une meilleure patrie, un meilleur sang, et puis Jésus-Christ qui est supérieur aux anges. Ça sera tout près de Noël. On aura l'occasion de parler dans ce message aussi également des anges. Et comme je le disais, le premier message de cette série était une meilleure espérance. Et on poursuit aujourd'hui avec le thème d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Il y a deux meilleurs, donc que du meilleur. Et je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. On va lire l'entier du chapitre. Or, voici le point capital que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de Dieu, de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. C'est en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établis avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, en effet tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. » En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien a vieilli et est sur le point de disparaître. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Comme je le disais, dans ce verset, on entend à deux reprises cet adjectif meilleur. Une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Et ce thème de l'alliance, en fait, est un thème qui traverse toute l'Écriture. En effet, quand on lit l'Écriture du début à la fin, on voit l'Éternel conclure des alliances avec les hommes. On considère en général qu'il y a eu une première alliance dans le jardin d'Éden entre Dieu et Adam. On appelle cette alliance l'alliance des œuvres en général. Et malheureusement, elle s'est un peu mal terminée. Et ensuite, Dieu a continué par la suite de conclure des alliances. Et on le voit conclure une alliance avec Noé, puis ensuite avec Abraham, et puis dans le prolongement de cette alliance avec Abraham, une alliance avec Moïse et l'ensemble du peuple d'Israël, puis intervient une alliance avec David, avant qu'intervienne la nouvelle alliance, que nous connaissons peut-être un peu mieux, et qui a été conclue au travers du sang de l'agneau. Alors, on peut considérer que ces alliances successives sont une seule alliance, qu'on appelle parfois l'alliance de grâce. On peut aussi considérer que ces alliances sont des alliances successives, différentes les unes des autres, que Dieu a conclues au gré du temps et des circonstances avec des personnes, mais quand même avec une certaine continuité. Mais on ne va pas s'arrêter ce matin pour savoir qui a raison, ce qui concerne qui considèrent qu'il n'y a qu'une seule alliance ou qu'il y en a plusieurs, parce que pour nous, il y en a deux sur lesquelles on va s'arrêter, en particulier ce matin. Une première, que précisément notre texte de l'Épître aux Hébreux appelle la première alliance, et puis une seconde, que notre texte appelle cette fois la nouvelle ou la meilleure alliance, ou plus exactement, nous dit que c'est une nouvelle alliance qui est précisément meilleure que la première. Et en fait, ce n'est pas très difficile d'identifier ces deux alliances qui sont mentionnées, puisque l'auteur reprend une prophétie de Jérémie, et puis qu'on trouve dans les versets 8 à 11 de notre texte. Et en les lisant, on comprend très bien de quelle alliance il s'agit. Lorsqu'il est parlé de la première alliance, il est bien sûr parlé de cette alliance que l'Éternel avait conclue avec Moïse et avec l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas de la toute première alliance que Dieu ait conclue avec des hommes, mais si le texte parle de cette alliance comme étant la première, c'est par rapport à celle qui vient ensuite et qui est qualifiée de meilleure. Et cette meilleure alliance, je le disais tout à l'heure, n'est pas difficile à identifier, puisqu'il s'agit de cette nouvelle alliance dont Jésus a parlé lorsqu'il a instituer la Sainte Cène, et on peut reprendre ces mots dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 20. Il est dit ceci: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors, on peut ce matin se poser la question: en quoi cette nouvelle alliance est meilleure que la précédente ? Et notre texte est absolument limpide, clair et limpide sur cette question. Il nous dit simplement que cette nouvelle alliance est meilleure parce qu'elle est fondée sur de meilleures promesses. Alors, dans la suite de ce message, je vous propose de comparer justement ces promesses, ces meilleures promesses, avec les promesses qui étaient contenues dans l'alliance avec Moïse. Et je relis les versets 9 à 10 de notre épître aux Hébreux, du chapitre 8, où il est dit ceci: « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai sur leur cœur. » Alors, vous qui connaissez bien l'Écriture, vous savez que la caractéristique de cette première alliance, qu'on appelle aussi souvent l'alliance du Sinaï, qui avait été conclue avec Moïse et avec l'ensemble du peuple d'Israël, les paroles de cette alliance avaient été écrites sur des tables de pierre. Et en fait, ce qui caractérise vraiment cette alliance, c'est que, on peut dire, les paroles ont été gravées dans la pierre. Moïse avait reçu ces tables de la loi sur lesquelles étaient écrites ces paroles d'alliance. Seulement, quand on lit attentivement l'Ancien Testament, et le commentateur Antoine Nouy, qui est auteur d'un commentaire verset par verset du Nouveau Testament, le relève, quand on est attentif à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il est dit aussi que ces paroles écrites sur des tables de pierre devaient quand même être dans le cœur des Israélites. Au Deutéronome, chapitre 6, verset 6, il est dit « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. » À partir de là, on se pose la question, quelle différence il y a entre cette première alliance et la nouvelle alliance qui est caractérisée cette fois non plus parce qu'elle est inscrite sur des tables de pierre, mais comme on a pu le lire, le Seigneur dit « Je les inscrirai dans ton intelligence et je les graverai sur ton cœur. » Mais si dans la première alliance, les paroles qui étaient écrites sur des tables de pierre devaient aussi être dans le cœur des Israélites, on ne voit pas bien où est la différence et en quoi cette nouvelle alliance serait meilleure que l'ancienne. Eh bien, la différence, je crois, se trouve dans le « je » de la nouvelle alliance. Si on réécoute le verset 10, « En donnant mes lois, c'est dans leurs pensées et sur leur cœur que je les écrirai. » Et pour donner une illustration, alors, mon illustration est un peu caricaturale, c'est vrai, mais ça permet d'expliquer un peu les choses et de comprendre. Je dirais, la première alliance fonctionnait un peu comme un professeur qui dirait à ses élèves, « Voilà, vous pouvez suivre mes cours, vous pouvez même prendre mes notes chez vous à la maison, vous pouvez photographier mes slides PowerPoint, vous prenez tout ça chez vous, vous travaillez, vous méditez, vous réfléchissez, vous en parlez le soir, le matin, quand vous êtes en voyage, partout, vous écrivez ça sur les portes, sur votre front, sur les mains, faites tout ce que vous voulez, mais vous appropriez vraiment cette parole, puis ensuite, vous mettez tout cela en pratique. Et nos élèves rentrent à la maison, ils ont les notes, ils ont les slides, ils ont entendu les cours, ils en parlent entre eux, mais quand vient le moment de mettre tout cela en pratique, ils s'aperçoivent que c'est plus compliqué que ça n'avait l'air. Et le professeur n'a pas manqué de leur préciser qu'en fin d'année, il y avait un examen et que l'examen porterait pour savoir si la mise en pratique a fonctionné ou pas. Et quand ils arrivent à l'examen, eh bien, le diagnostic est clair, ils n'ont pas réussi. Bien sûr, ils avaient les informations, ils avaient tout ce qui était nécessaire, mais ils n'ont pas réussi dans l'absolu à mettre cette loi, à mettre les paroles de cette alliance en pratique. Dans la nouvelle alliance, on retrouve à peu près le même professeur, qui dit les mêmes choses à ses élèves. Il leur dit, vous pouvez suivre mes cours, vous pouvez prendre mes notes, vous pouvez photographier mes slides, vous reprenez tout ça, vous étudiez tout cela à la maison, mais moi, je serai avec vous pour travailler avec vous de manière à ce que cela s'inscrive dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre intelligence, et que vous soyez capable de mettre cela en pratique. Et nous, en tant que croyants en Jésus, je relève entre parenthèses que cette nouvelle alliance, elle est d'abord pour Israël et la maison de Juda, l'évangile, si on veut dire, et la puissance de salut d'abord pour le juif, ensuite pour le grec. Mais nous, disons, en tant que croyants en Jésus, nous avons cet immense privilège d'avoir cette parole qui est inscrite en nous par l'Esprit et de ce fait, de pouvoir la mettre en pratique. Et si nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les anciens Israélites sous la première alliance, c'est tout simplement parce que l'Esprit est en nous et nous donne cette capacité de vivre selon la volonté, selon la pensée et selon la volonté de Dieu. Donc si on veut retenir quelque chose, en quoi les promesses de la nouvelle alliance sont meilleures, eh bien la première promesse est celle-ci, j'inscrirai mes lois dans votre intelligence, je les graverai sur votre cœur. Et puis il y a une deuxième promesse qui intervient au verset 11, et il est dit ceci, « Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, en effet, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Personne n'enseignera plus son concitoyen. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus nécessaire dans l'Église d'enseigner la parole, sinon il ne me reste plus qu'à plier mes affaires et à partir et à vous laisser entre vous. C'est vrai, on a besoin d'enseignement, de méditer la parole ensemble, mais la caractéristique de cette nouvelle alliance, c'est qu'il est dit « tous me connaîtront ». Et là aussi, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il y a réellement une différence d'avec l'ancienne alliance ? Parce que dans cette première alliance, il y avait aussi la possibilité de connaître le Seigneur. On lit, par exemple, dans 1 Samuel 3, 7, on lit ceci, « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Mais s'il est précisé « il ne connaissait pas encore », cela signifie que par la suite, il a connu. Et on le voit par la suite, Samuel est quelqu'un qui connaissait véritablement le Seigneur. Il y avait donc cette possibilité déjà dans la première alliance, de connaître le Seigneur d'une manière personnelle. Et c'est évident que des personnes comme Moïse, que des personnes comme David et d'autres étaient des gens qui avaient une relation, qui connaissaient le Seigneur. Simplement, cette connaissance, on peut dire personnelle, n'était pas généralisée à l'ensemble du peuple. Alors, ce n'est pas que le peuple avait aucune connaissance du Seigneur, mais la connaissance qu'ils avaient, ils l'avaient par des intermédiaires, en particulier les sacrificateurs qui étaient là et qui avaient cette charge d'enseigner la loi. Et bien sûr, ce qu'ils entendaient était conforme à la pensée de Dieu, mais leur connaissance était, comment dire, par personne interposée, n'était pas directe comme aujourd'hui. Et là aussi, j'aimerais donner un petit exemple. Je peux dire en toute bonne conscience que je connais le président de la Confédération helvétique. Il s'appelle Guy Parmelin, il vient de Bursin, dans le canton de Vaud, il est membre du parti UDC, il dirige le département des finances, il a été brillamment réélu à la présidence du Conseil fédéral, et selon ce que disait son père à cette occasion, il a des problèmes de dos. Tout ce que je viens de vous dire est parfaitement exact. Vous pouvez le vérifier, c'est été publié et c'est régulièrement publié dans les médias. Simplement, je pense que sa femme le connaît très différemment de moi. Et quand elle l'entend défendre bec et ongle l'avis du Conseil fédéral dans une émission de télévision, je pense qu'elle se dit, dans le privé, il est un peu plus nuancé que cela. Et c'est tout à fait normal, parce que nous, bien, on va le connaître, pas personnellement, parce que je me disais, je le connais, mais je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais serré la main, je n'ai jamais discuté avec lui. Ce que je connais de lui, je le connais par un intermédiaire. Alors, c'est juste, mais on ne peut pas parler d'une connaissance qui est personnelle, qui est directe, qui est basée sur une rencontre et sur une relation qui suit cette rencontre. Alors que Madame Parmelin connaît son mari parce qu'elle l'a rencontré, parce qu'elle vit avec au quotidien, et elle sait très bien qu'il n'est pas tout à fait comme l'image que nous en renvoient les médias. Enfin, on espère que c'est mieux. Hein. Elle ne se dit pas « oulala » chaque fois qu'elle le voit. Mais voilà. Mais tout cela pour expliquer la différence, bien sûr. On peut connaître par personne interposée, on peut avoir une connaissance qui est exacte, qui est juste, mais la connaissance dont il est parlé ici est une connaissance qui est une connaissance personnelle. Et là aussi, dans l'alliance qui est la nouvelle alliance, cette caractéristique, c'est que chaque membre du peuple, petit, grand, jeune, vieux, a la possibilité de connaître personnellement le Seigneur, d'avoir une relation avec lui et de recevoir directement du Seigneur sa pensée. L'apôtre Paul le dit très bien dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « par Jésus, en lui ». Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, deux promesses. Une première, j'inscrirai mes lois dans votre cœur. Et puis, une seconde, tous me connaîtront. Et puis, il y en a encore une troisième, car je leur ferai grâce de leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et là encore, on retrouve exactement le même schéma développé dans ces trois promesses. Dans la première alliance, il y avait aussi la possibilité d'obtenir le pardon des péchés. Timothy Keller, qui a écrit un livre sur le pardon, relève la chose suivante. Il dit, dans le culte du tabernacle, tout était fait pour donner le pardon. Seulement, ce pardon s'obtenait au travers de sacrifices qu'il fallait constamment renouveler. On apportait, voilà, il y avait un sacrifice de culpabilité, un sacrifice pour le péché, et on apportait à cette occasion des animaux qui étaient sacrifiés. Et puis, voilà, on le faisait une fois, puis on le faisait une seconde fois, puis une troisième, et ainsi de suite. Il fallait constamment renouveler ce sacrifice. Alors, quand Jésus, un seul sacrifice a suffi pour l'ensemble, et la première épître de Jean nous dit qu'il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, mais il ajoute non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, s'il est victime expiatoire pour les péchés du monde entier, quel que soit le fardeau qu'on puisse porter à ce niveau-là, sachant qu'on peut vraiment le déposer aux pieds du Seigneur, son sacrifice est pleinement suffisant pour couvrir non pas seulement nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier et pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et c'est bien à cela qu'on est invité dans notre vie, mettre notre foi en Jésus afin d'avoir ce pardon des péchés. Alors, je récapitule et je conclue avec la chose suivante. Meilleure alliance, meilleure promesse. Meilleure alliance, pourquoi ? Parce que les promesses qui en découlent, c'est une loi écrite sur nos cœurs, c'est une connaissance personnelle du Seigneur et c'est l'assurance complète et totale du pardon de nos péchés, que cela puisse nous encourager à persévérer dans notre marche journalière à la suite de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.